Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Et c'est vrai que nous évoquons depuis quelques jours cette deuxième année de l'Hégire sur les traces du prophète avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Mais cette année 2 de l'Hégire, imam Abdelali, c'est une année où il s'est passé énormément de choses.
Oui, effectivement, Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh tout d'abord. Et bien entendu, il est important que nos auditeurs comprennent que l'année 2 est une année, qui est un petit peu... qui déclenche véritablement un changement de situation socio-économico-géographique dans la péninsule arabique et donne au prophète, alayhi salatu wasalam, une forme de suprématie, de supériorité, de domination, tout simplement. Dans toute la péninsule arabique, tout le monde le craint. Les tribus commencent à comprendre qu'il y a un véritable enjeu énorme là-dessus. Donc, ils s'interrogent, commencent à poser des questions, et beaucoup d'entre eux vont se convertir et rejoindre les rangs et se considérer comme alliés. Donc, on a véritablement deux fronts. On a les Mécois avec tous leurs alliés, toutes les tribus alliées des Mécois, et la ville de Médine, ses compagnons, le prophète, bien entendu, et toutes les tribus alliées de celui-ci. Donc, c'est véritablement deux camps qui s'affrontent. On verra dans l'histoire que parfois même des tribus entre elles vont se combattre sans que les Mécois ou les Médinois soient mêlés à leur conflit ou à leur bataille. Donc c'est énorme ce qui se passe. On est dans un contexte où on est face à un camp qui est assez équilibré. Puisqu'on verra que l'année 3, c'est enfin les koufars, les idolâtres, qui vont avoir un petit peu le dessus sur le prophète et ses compagnons.
Alors, dans l'année 2, il y a des événements heureux quand même. Hein.
Oui, bien entendu. Il y a d'abord le mariage de Ali et de Fatima, c'est-à-dire le cousin du prophète. Le prophète va enfin donner la fille Fatima, sa dernière, sa cadette. Il va la donner en mariage à Ali ibn Abi Talib, sachant que Zainab est déjà mariée avec Abu al-As ibn Rabi'a, mais qui est toujours mécréant, mais qui habite à la Mecque, et donc il n'est pas encore converti à l'islam. Il ne se convertira que seulement l'année 6 de l'Hégire. Ruqayya est décédé lors de la bataille de Badr, et Umm Kulthoum, eh bien, elle va se marier avec l'ex-mari de sa sœur, le veuf donc de sa sœur, donc Uthman ibn Affan. Donc c'est pour cela que Uthman ibn Affan aura un surnom, on l'appellera plus tard Zunnurain, c'est-à-dire celui qui a les deux lumières, l'homme aux deux lumières. Lumière, c'est-à-dire Ruqayya, la fille du prophète, et Umm Kulthoum, avec qui donc Uthman est plus à même à devenir calife après la mort du prophète et après Abu Bakr et Omar que Ali, parce que Uthman s'est marié avec deux de ses filles alors que Ali ne s'est marié qu'avec l'une d'entre elles, et c'est notamment Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam avec qui Ali se mariera l'année 2 de l'Hégire. Voilà. C'est aussi un moment où est-ce que Umayr ibn Wahb, c'est un non-musulman, un mécréant, qui a, après avoir constaté que le prophète a gagné, a été victorieux lors de la bataille de Badr, et que son père lui-même a été assassiné, a été tué du moins lors de cette bataille, va vouloir se venger. Il s'assoit au niveau de la Kaaba. Il est assis avec Safwan ibn Umayya, lui aussi son père est mort lors de cette bataille, Umayya ibn Khalaf, et ils sont tous les deux enragés. Il dit: qu'est-ce qu'on peut faire pour se venger? Et là Umayr ibn Wahb dit à Safwan: écoute, si moi quelqu'un est capable de prendre en charge mes enfants derrière moi, je suis prêt à aller tout seul et aller tuer le prophète Mohammed, et à tuer Mohammed. Et là Safwan lui dit: écoute, moi je prends en charge tes enfants. Safwan ibn Umayya dit: moi je m'occupe de prendre soin de ta famille. Il dit: t'es sûr? Il dit: oui, on prend. Et il signe, hein, il se serre la main et ils prennent l'engagement, ils complotent. Donc, et là Umayr ibn Wahb prépare son attirail, une armée, une épée, un chameau, tout ce qu'il faut, les ravitaillements qu'il a besoin pour aller jusqu'à la Médine, et il va carrément empoisonner le fourreau et l'épée avec lequel il va vouloir tuer le prophète. C'est-à-dire, il suffira qu'il le blesse pour qu'il le tue, puisque le poison se répandra dans son corps et le tuera. Donc effectivement, il prend le chameau, il part à Médine, arrive à Médine un tôt le matin. Il est repéré par Omar al-Khattab. Omar al-Khattab sait que c'est Umayr ibn Wahb, puisque c'est un Mécois comme lui, il le connaît bien. Il va vers lui, il lui saute dessus et il l'attache. Il prend la main dessus et il le prend prisonnier auprès du prophète. Et là, il dit en rentrant, Ya Rasulallah, hada Umayr, ce Umayr-là, il n'est pas venu pour faire du bien, il est venu pour faire du mal. C'est pas quelqu'un qui est venu comme ça de la Mecque pour faire le bien. Et là, lui, qu'est-ce qu'il répond, Umayr ibn Wahb? Il dit An'imu sabahan. Comme on pourrait dire un bonjour. Il dit bonjour le matin. Le matin, on est le matin très tôt, il dit bonjour. Le prophète dira Dieu nous a remplacé cette expression de salutation par une meilleure salutation, Ya Umayr. Oh Umayr. Il dit c'est quoi? Il lui dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu te couvre de sa paix, hein, ainsi que de sa miséricorde et de sa bénédiction. Rien qu'en disant cette phrase-là, le cœur de Umayr ibn Wahb va s'apaiser. Et le prophète va mettre sa main sur la poitrine et il va dire Allahumma shrah sadrahu lil-islam. Oh mon Dieu, ouvre son cœur à la foi. Et il lui dira ne t'es-tu pas rassemblé, réuni pour comploter contre moi avec Safwan au niveau de la Kaaba? Vous étiez tout seul, personne ne vous a vu? Il dira, comment tu sais ça? Comment tu sais qu'on a comploté contre toi? On était tout seul et je viens de faire 400 kilomètres, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un espion qui nous a entendu et qui t'a informé. Forcément, c'est quelque chose d'autre. Il dit, oui, c'est Jibril, l'archange Gabriel qui est venu me le dire, qui m'a informé que tu complotes contre moi et que tu as comploté, que tu as dit à Safwan que Safwan garderait ta famille, prendrait soin d'eux pendant que toi tu viens de m'assassiner. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dira, oui, c'est vrai, y a Mohammed. Eh bien, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne que tu étais l'envoyé de Dieu. Et là, Umayr ibn Wahb va se convertir à l'islam, il va rentrer à la Mecque, et au lieu d'annoncer qu'il a tué le prophète, il va annoncer à Safwan ibn Umayya qu'il s'est converti à l'islam. Et là, Safwan, il va être enragé, il dit, moi j'ai gardé tes enfants, j'ai pris soin d'eux, et tout, et toi, au lieu de tuer le prophète, tu t'es converti. Et il va lui cracher dessus, il va être dégoûté de lui, et il va le désavouer. Et bien entendu, lui aussi, Safwan va se convertir, il faut dire, radiallahu anhu, puisque lui aussi, plus tard, à la conquête de la Mecque, va se, et même après la bataille de Hunayn, il va se convertir à l'islam. Donc ne disons pas du mal de Safwan ibn Umayya, même si son père, lui, est mort mécréant lors de la bataille de Badr. Et donc, à partir de là, Safwan, Umayr ibn Wahb se convertit à l'islam, et c'est une très bonne nouvelle pour les musulmans de Médine. Ensuite, il va y avoir un événement, c'est l'expulsion de la tribu des Banu Qaynuqa. Alors à Médine, il y a trois tribus juives. Il y a Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Banu Qaynuqa est la tribu la plus proche par rapport aux habitants du centre de la Médine, là où il y a les Arabes. Et, donc les Arabes musulmans, qui sont tous des musulmans, il faut le rappeler. Et ils ont fait une charte, ils ont établi une charte de rapport humain, de vivre ensemble, de pouvoir échanger. Sauf que un jour, il y a une femme qui rentre dans le marché juif, le marché où ils vendent de l'or, parce que les juifs, eux, ce sont des artisans, des bijoutiers, etc. Et elle s'assoit, et qu'est-ce que fait un juif derrière elle? Il accroche sa robe au niveau du sol. Donc alors qu'elle est assise sur une chaise, sur un banc ou sur un support dans lequel elle est assise. Mais au moment où elle se lève, la robe va se déchirer et on va voir toutes ses parties intimes. C'est-à-dire on va voir les sous-vêtements. Cette femme va crier au viol, c'est-à-dire à la honte, etc. Un musulman qui passait par là va voir la scène. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son épée du fourreau et va donner d'un coup d'épée. Il va tuer cet homme qui a fait du tort à cette musulmane, cette cliente qui était passée dans ce magasin. Et il va le tuer. Donc, bien entendu, les autres membres de la communauté juive des Banu Qaynuqa, voyant l'un d'entre eux tué par ce musulman, vont eux aussi lui tomber dessus et le tuer. Donc là, il y a des morts. Dans l'affaire, il y a des morts. Le prophète organise tout de suite l'expédition et elle va, ce qu'on appelle, encercler et assiéger la tribu des Banu Qaynuqa. Je précise que les Banu Qaynuqa vivent dans des châteaux, dans des qosour. Ils ne sont pas, c'est pas des maisons qui sont éparpillées comme ça dans la ville. Ce sont des véritables châteaux forts qui sont entourés par des murailles. Donc pour les trois tribus, et Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza se protègent derrière des murailles. Fi buruj mushayyada, comme dira le Coran plus tard. Et donc ils assiègent la tribu. Et eux, ils acceptent la réconciliation et que leur sort soit entre les mains du prophète. Et ils décident de faire ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent d'eux. Et ils décident tout simplement de les expulser, leur dire, écoutez, je ne tuerai personne, je ne vengerai pas, ça y est, un mort pour un mort, c'est bon, mais maintenant vous devez quitter la ville, vous n'avez pas respecté la charte de Médine, vous n'avez pas respecté l'engagement du vivre ensemble, vous n'avez pas respecté l'honneur de cette femme, vous n'avez pas respecté la vie de ce musulman qui est venu défendre l'honneur de cette femme, donc allez, dehors, vous dégagez, vous partez à Khaybar. Et ils sont partis, toute la tribu des Banu Qaynuqa ont quitté la ville de Médine et sont partis s'installer dans à Khaybar. Ils sont venus rejoindre leurs frères qui vivaient à à Khaybar, qui est une ville au nord, à une centaine de kilomètres au nord de Médine. Voilà pour ce qui est de cet événement qui est la bataille de Bani Qaynuqa, mais effectivement il n'y aura pas eu vraiment de bataille. Ensuite la bataille de Sawiq. La bataille de Sawir, c'est quoi? C'est qu'Abu Soufiane, le chef, on en dit, on en a déjà parlé, avec 200 de cavaliers venus de la Mecque, vient essayer de se venger des morts de Badr. Pourquoi? Parce qu'il a juré, il a dit, je ne mouillerai pas mes cheveux, je ne me laverai pas tant que je n'aurai pas lavé le sang de mes frères qui sont morts à Badr. Ça, c'est qui parle? C'est Abu Soufiane, qui n'était pas présent à la bataille. Il n'était pas présent à Badr. C'est Abu Jahl qui est présent. Abu Soufiane, lui, dirigeait la caravane. Mais il apprend que derrière lui, l'armée de ceux qui sont censés le protéger ont été massacrés, ont été battus par le prophète et ses compagnons. Donc, il dit, je vengerai, notamment son fils, qui est mort lors de Safwan, qui est mort lors de cette bataille. Donc, il dit, avec 200 cavaliers, il va vouloir se venger. Il va arriver jusqu'au bord de Médine, mais le prophète va envoyer tout de suite une armée, une grande armée, et il va se sauver, il va fuir, bien entendu, le prophète. Et c'est comme ça que se termine la deuxième année et débute la troisième année de l'Hégire, donc après la bataille de ce qu'on appellera la bataille de Sawir. Comment ils fuient, laissent derrière eux des cuves et des récipients dans lesquels il y a du Sawir. C'est quoi le Sawir, Philippe? C'est de la farine de blé d'orge et du blé d'orge qui est mélangé avec de l'eau et qui fabrique une sorte de pâte. Cette pâte-là qui est utilisée pour se nourrir lors des voyages et qu'on appelle en arabe le sawiq. C'est le sawiq, c'est une nourriture très consistante et qui permet aux voyageurs de manger et de se rassasier lors du voyage. Donc, pour fuir rapidement, ils sont obligés de jeter au sol ces récipients dans lesquels il y a le sawiq et les compagnons vont récupérer ce sawiq, c'est-à-dire cette nourriture qu'ils vont ramener comme un tribut de guerre à Médine. Et bien entendu, le prophète va le distribuer équitablement entre ses habitants et entre ses combattants comme un tribut de guerre. Et bien entendu, cela va constituer une énième victoire contre les Mécois.
Bien. Et ça donnera le nom à la bataille.
La bataille
demain,
de Sawir.
Voilà, demain, l'année 3 de l'Hégire. Vous réécouterez cet épisode en podcast sur beurrefm.net. Et dans un instant, si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, c'est Allo l'imam au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan Enco, c'est votre rendez-vous pendant 30 jours, pendant tout le mois du Ramadan, à partir de 17h. Nous vous donnons rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonsoir, imam
Abdelali. Bonsoir, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, Ramadan Mubarak Karim al-Jami'. Alhamdulillah. On est bien parti, on est bien dans l'ambiance spirituelle, fraternelle, conviviale, dans la générosité, la spiritualité, avec en plus notre cher Othman Timera qui assure tous les soirs avec sa belle prestation. En tout cas, on se nourrit énormément.
Merci beaucoup.
Ça en soi est déjà une nourriture.
Merci beaucoup.
Je sais pas si, par contre, je vais poser la question, est-ce qu'elle est moufattir ou pas? ton intervention.
Non, elle est pas mon fatir, Inch'Allah.
Alors, elle est tellement nourrissante.
Pour tout le monde, mon fatir, parce que bon.
D'ailleurs, ça annule, ça rompt le jeûne.
Parce que ça rompt le jeûne.
Ouais. Alors, bonsoir, Ousmane.
Bonsoir, que la paix soit sur vous. Salam alaikum wa rahmatullah.
Qui n'est pas venu en vélo aujourd'hui?
Non, non, avec la pluie, là. J'ai tenté, mais non, non, allez, on va. En plus, dans le métro, j'aime bien parce que quand j'ai le. Je suis téméraire, mais pas téméraire.
Voilà. Téméraire, mais pas téméraire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a.
En tout cas, pas sous la pluie. Et le métro, j'aime bien parce que ça me permet de lire ou d'écrire sur mon ordinateur quand c'est pas trop bondé et tout. Donc,
c'est pas la ligne 13 alors.
Ah non, malheureusement. Voilà. Ou heureusement plutôt. Ouais. Non, non, ça va.
Parce que sinon, ça, c'est compliqué de s'asseoir.
C'est compliqué, effectivement.
Émission réalisée par l'agent Fofo. Voilà. Voilà.
Il est là.
Qui vous salue. C'est déjà pas mal, on a droit à un salut de l'agent Fofo.
Voilà, avec le bras, comme ça on entend bien.
Et on entend bien qu'il a levé, qu'il a levé le bras.
Il a levé le bras.
Alors, allô l'imam, c'est dans un instant au 01 53 48 3000. Je voudrais
le
dire
standard est déjà blindé.
Je voudrais vous dire qu'à partir de dimanche, c'est le retour du grand quiz du Ramadan.
Ah, donc, superbe.
Qui se déroulera en deux manches cette année, donc vous serez trois tous les soirs à vous affronter.
En plus, comme on a le changement d'horaire, le ftor sera à 8h15 à peu près, je sais pas combien.
Ouais.
Voilà, n'est-ce pas?
Voire même plus après, si il y a plus, ouais. Je crois qu'on va finir au-delà de 30. Hein.
Eh ben, c'est, alhamdoulilah, 10 jours, c'est des,
donc, la dernière. À partir de dimanche.
La dernière décade, Inch'Allah. Oui.
Dimanche, retour du grand quiz du mois de Ramadan. Alors, on commence par Salma, oui, c'est ça, Salma qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Salma.
Bonsoir.
Bonsoir, Salma.
Bonsoir, Salma.
C'est Salma, j'ai 10 ans, j'en ai eu des roses.
Ah.
Et ma question, c'est, je viens d'apprendre la prière et si je veux prier avec ma mère, comment ça se passe?
Ah bah, tu te mets à droite de ta mère et tu demandes à ta mère de réciter tout à voix haute. Même ce qu'elle prononce dans la prosternation, dans l'inclinaison, quand elle est à genoux, quand elle est debout, bon, elle fait tout à voix haute. Comme ça, toi, tu écoutes ce qu'elle dit ta mère et tu essaies de répéter avec elle.
D'accord.
D'accord. Et jusqu'à que tu l'apprends. Et quand tu l'auras appris bien, ta mère, elle récitera à voix basse. Et toi aussi à voix basse. D'accord ?
Merci.
Sauf les prières qui sont à voix haute, bien sûr, le Maghrib, le Isha. Et subh, là, à ce moment-là, quand on est debout, on récite la Fatiha et la Sourah à voix haute. Mais les autres prières, les trois autres, les deux autres qui sont Dhuhr et l'Asr, on va les faire à voix basse, Inch'Allah. D'accord ? Donc tu restes à droite de ta maman et tu écoutes ce qu'elle dit dans la prière et tu lui dis, maman, l'imam, il a dit, tu dis tout à voix haute. Jusqu'à que j'apprends.
Merci.
Voilà. Qu'Allah te préserve. Je te
merci,
fais un gros bisou.
Salma. Alors, nous avons Manel qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Manel.
Ouais, salam alaykoum, bon Ramadan à tous.
Malikoum,
bon Ramadan, salam alaykoum.
Nhabna fal eni amla le stérilé. Donc, j'ai mes règles tous les mois. Et par exemple, 6 jours j'ai mes règles. Après, il y a 2 jours j'ai rien. Après, ça revient des pertes marrons.
Vous n'en tenez pas compte. Vous n'en tenez pas compte.
Donc,
vous êtes censé avoir 6 jours seulement, c'est ça, hein? Votre c'est cycle ça. Menstruel, il est de 6 jours, c'est ça. Après, vous avez 48 heures où il n'y a rien, c'est ça.
C'est ça.
Et, bah, et après, des pertes, les pertes rouges, rien, oui. Marron ou là, je sais pas quoi, peu importe la couleur, ça n'influe en rien, ça n'est pas des règles, c'est de la métrorragie, c'est hors sujet.
D'accord. Et, par exemple,
par contre, il faut nettoyer les stinja, après, vous faites vos ablutions et vous faites votre prière.
Oui, c'est ça, oui. Il faut faire la douche ou juste l'eau au dos?
Non, non, l'eau au dos, mais l'istinja avant. C'est-à-dire votre toilette intime d'abord, ensuite oui, vos ablutions.
Et ouais. Par exemple, depuis le Fajr, la femme, elle a plus ses règles, donc c'est arrêté donc les 6 jours. Est-ce qu'elle peut faire sa douche avant le Maghrib et après fait toute la prière? C'est-à-dire Subh, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, ou bien non? Elle commence le Maghrib.
À partir du moment où est-ce qu'elle n'a plus ses règles, les 6 jours sont terminés. Et qu'elle est complètement voilà, elle n'a plus, elle devient totalement purifiée. Elle doit faire tout de suite sa douche et la première prière qui arrive, elle doit la prier. Elle attend pas le Maghreb. Pourquoi elle va attendre le Maghreb?
Par exemple, pour attendre, vérifier s'il a rien, donc elle fait sa douche après.
Non mais elle vérifie. Elle a pas besoin de longtemps pour ça. Hein. D'accord. Si elle vérifie et voit qu'il n'y a rien, la prière qui à l'instant, au moment où ça se passe, par exemple, si c'est dans la journée Dhuhr, par exemple, elle fait Dhuhr. Et après, elle continue ses autres prières, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, etc. Mais elle n'attend pas le Maghrib, dire moi je reste comme ça jusqu'à le Maghrib. Non, non, non. Il faut qu'à partir du moment où elle est certaine que c'est fini, son cycle est terminé, elle fait sa douche et elle commence les prières, qui est la prière, la première prière qui est présente. Sachant que, bien entendu, la prière, on ne la rattrape pas. Salat la tuqda salat. Le jeûne, elle doit le rattraper, bien entendu. La prière obligatoire ou bien le jeûne obligatoire est mieux récompensé, est mieux rétribué que une prière ou un jeûne surérogatoire et facultatif. Donc il faut faire la niya que c'est du farida, c'est du ramadan que vous rattrapez pendant le mois de Shawwal. Donc vous faites votre rattrapage avant de jeûner Shawwal ou après de jeûner Shawwal si vous le voulez. Mais voilà, c'est à vous de faire la niya. Soit c'est niya de Shawwal, à ce moment-là vous faites vos 6 jours de nafila, qui sont les 6 jours de Shawwal, et après vous avez toute l'année pour rattraper vos 6 jours ou vos 5 jours ou peu importe le nombre de jours d'indisposition, vous n'avez pas jeûné, à ce moment-là vous faites la niya de rattraper la farida, qada al farida. Donc soit vous commencez par rattraper le qada al farida, ensuite vous faites Shawwal, ou soit vous faites Shawwal et après vous avez toute l'année pour rattraper qada al farida.
Voilà Manel, merci pour votre question. Alors nous avons Lilia qui est avec nous au 01 53 48 3000. Lilia, bonjour, bienvenue et bon ramadan.
Salam
alaikum. Lilia, salam alaikum.
Nouvelle génération.
Masha'Allah, ouais. C'est que de la jeunesse.
Alors Lilia.
Oui.
Salam alaikum.
On t'écoute.
Qu'est-ce que exactement les djinns?
Qu'est-ce que c'est que les djinns?
Oui.
Alors, les djinns sont des créatures que Dieu a créées longtemps avant l'être humain, longtemps avant l'Homo sapiens, c'est-à-dire avant Adam et Ève. Ils existaient déjà longtemps avant et ils vivaient sur Terre, hein, d'accord. Et Dieu, donc, il les a créés de feu déjà. De la matière avec laquelle Dieu les a créés, c'est le feu. Ce qui fait que nos yeux ne peuvent pas les voir, ne peuvent pas percevoir les djinns. Et chez les djinns, il y a des gens mauvais, il y a des créatures djinns mauvaises, min al djinnati, comme le dit le Coran, et il y a aussi des djinns qui sont des croyants. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al djinni. Il y a des djinns qui ont entendu la parole de Dieu. Faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban yahdi ila rushdi. Nous avons entendu la parole qui guide vers le droit chemin. Fa amanna bihi. Nous avons cru en celui-ci. Voilà, nous shirka bi rabbina ahada, ils n'associeront aucune autre divinité avec Allah. Donc il y a des djinns croyants et il y a des djinns musulmans, de la même manière qu'il y a des humains croyants et il y a des humains non croyants. Donc vous comprenez, et ces deux créatures qu'on appelle en arabe al-thaqalain sont les deux créatures concernées. On va parler même de race, on peut parler même de race. Il y a la race humaine et la race des djinns, tout simplement. Les races humaines est créée de terre, la race des djinns est créée de feu. Ces deux races-là sont concernées par la révélation et par l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Donc les djinns, on ne peut pas les percevoir avec nos yeux, on ne sait pas comment ils sont. Ils peuvent prendre des formes, il y en a qui prennent des formes d'animal, il y en a qui prennent des formes bizarres. Alors chacun dit que on est capable parfois de les voir dans certains endroits, dans les cimetières, dans les terrains vagues, dans les endroits un peu sales. Voilà, et c'est selon certains avis, mais en tout cas, on a l'obligation, chaque musulman a l'obligation de croire qu'ils existent, que les djinns existent. Est-ce que maintenant ils ont une influence sur l'être humain? Oui, mais seulement dans leur capacité à tourmenter et à ce qu'on appelle pratiquer le waswas, mais pas à posséder le corps. Inna kayda ash-shaytan kana da'ifa, c'est un être, une créature faible. Il n'a pas les moyens de posséder les humains, mais il a les moyens d'encourager, d'inciter les gens à commettre et à se détourner de Dieu.
Alors Ousmane Timera.
Oui, je voulais dire à notre jeune frère et ami.
Lydia.
C'est une fille.
Ah pardon, excusez-moi, à notre jeune sœur. Oui, ils existent, et non, ils n'interviennent pas dans nos vies quotidiennement comme on pourrait nous le faire croire. Souvent, surtout quand on est petit dans certains pays ou dans certaines traditions, on nous fait tellement peur avec ces histoires de djinns qu'on a l'impression qu'on peut rien faire sans être sous leur influence. Et surtout, ça crée des êtres humains, des personnalités faibles et flébardes et toujours avoir peur. Il faut pas avoir peur, t'es sous la protection de Dieu. Les djinns, ils vivent dans leur vie, dans leur univers, ils font leur vie. Alors, il y en a quelques-uns, on nous dit, ils sont pas bons. Tu dis que Dieu te protège et il te protégera. C'est tout.
En tout cas, leur influence sur l'être humain est assez rare. C'est-à-dire, c'est assez rare. Ça arrive. C'est pour cela qu'il existe des sourates, même des doigts du prophète, pour nous préserver du mal des djinns. Donc, il faut, mais c'est rare. Leur intervention est rare. Faut pas à chaque fois, psychoser et tomber dans cette psychose qui consiste à dire qu'à chaque fois, on voit un comportement un peu bizarre de chez quelqu'un, que c'est forcément, une possession. Non, il y a d'autres maladies psychiatriques ou neurologiques qui peuvent être à l'origine du comportement anormal d'une personne. Et pas forcément, une possession d'un djinn ou d'un démon.
Merci Lia pour ta question. 19h15 ce soir, c'est l'ADN en direct hein, sur Beurre FM. Et si vous avez des questions à poser, allô l'imam, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Ouais,
et Ousmane Timira qui est avec nous également, 01 53 48 3000, c'est allô l'imam. Alors je sais que vous avez beaucoup travaillé pendant la pause, imam Abdelali, que vous êtes allé à la recherche du hadith que Koutman voulait écouter tout à l'heure.
Voilà, c'est non, ça. Que je voulais pas écouter justement.
Non mais quand c'est le Bukhari et musulman, on n'a rien à dire.
moi comme je l'ai dit, bon les gens vont la maqam lil ahad fi maqam al tashri'. Il n'y a pas de place dans les hadiths donnés par un individu dans le domaine de la législation. Ça, c'est mon principe juridique.
Mais j'ai jamais dit.
Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi.
Personne. D'abord, il n'y a pas de tashri' dans ce hadith que j'ai évoqué. Et secondo,
c'est un hadith qui fait du bruit.
Il est... ouais, ça fait du bruit.
Non, mais c'est important c'est que maintenant, bizarre. Parce que ce hadith-là, il parle du diable, on parle des démons tout à l'heure.
Ouais, c'est pour
on
ça.
Disait que
ouais.
Le diable, quand il entend le Adhan, eh bien, il a un paix. Ben voilà, tout simplement, on va dire avec les termes, il pète et volontairement.
Mais il pète du feu.
Je sais pas.
Non, parce que si c'est le diable,
ça fait du bruit. Non. En tout cas, ça fait tellement de bruit que ça
pétarade.
Non, c'est pas ça la question. C'est que ça permet qu'il n'entende pas l'Aden. Parce que l'objectif, c'est qu'il n'entende pas grâce à ce paix, il n'entend pas le Aden. Et quand l'Aden se termine, il revient à la charge. Et après, il y a la iqama. Et là, quand il y a la iqama, il repart. Et pareil. Et ensuite, quand la prière commence, il revient. Et là, il dit à l'individu, t'as pas oublié ça, tu te rappelles pas qu'il fallait que tu fasses ça. Et dans la prière, jusqu'à que l'individu ne sache plus, même plus où il en est dans la prière. Hein, je vais le lire en arabe. Le hadith dit, selon Abu Huraira, إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دورات الدورات donc c'est le fameux paix حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا واذكر كذا نبلي rappelle-toi ceci rappelle-toi cela كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى jusqu'à que la personne ne soit plus en mesure de savoir où il en est dans le hadith et là il dit le athar hadith muttafaq alay et l'expression muttafaq alay c'est-à-dire il y a un consensus sur son authenticité
donc il n'a pas entre Bukhari et Muslim.
Oui, muttafaq alay souvent il y a souvent aussi derrière les autres.
Tirmidhi,
Ibn Majah, Abu Dawud, Nasa'i. Oui, souvent pas toujours. Mais c'est vrai que l'expression muttafaq alay ça veut dire rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ittafaqa ala sihhatihi. يعني اتفقا يعني البخاري ومسلم على على صحته. Donc voilà, il y a pas de problème. On parle d'une créature maléfique hein, on sait le diable absolu qui n'aime pas entendre l'appel à la prière. Et voilà, le prophète cite ce qu'il y a de plus répugnant chez l'homme pour justement éviter de ne pas l'entendre. Je vois pas il ou le mal. Il n'y a pas de tachriya dans l'histoire. Il n'y a pas de voilà. C'est une créature qu'on appelle un djinn, puisqu'il faut savoir que Ash-Shaytan, qui est le chef de tous les démons qu'il y a sur terre, eh bien qu'on appelle Iblis aussi, est une créature que Dieu a créée de feu. qui est un djinn. Illa iblis kana min al jinn fa fasaqa an amri rabbih, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Kahf. Donc on a bien la confirmation d'Allah que le shaitan est un djinn.
En fait,
la question de la demoiselle.
La réticence qui est la mienne, mais encore une fois, il y a des grands savants ici et l'imam Abdel Ali en fait partie. La réticence qui est la mienne, c'est que les hadiths, c'est important. C'est très important, c'est tellement important que les savants ont fait le tri en disant qu'il y a des faux hadiths qu'il faut mettre de côté parce qu'il ne faut pas laisser n'importe qui dire tout et n'importe quoi. Et qu'on connaît la tendance de certains exhortateurs d'inventer des choses qui sont de l'ordre du folklore et de le mettre sur la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il y a des méfiances en disant bon, il y a des hadiths quand même, c'est un peu limite en termes d'explication, un peu folklorique. Bon, je dis pas que c'est faux, hein, après tout, qui je suis face à Bukhari et Muslim. Mais je dis que entendre le prophète, alayhi salatu wassalam, parler de cette manière-là, de paix, de ceci, de cela et tout, ça me semble un peu léger. Voilà,
non,
c'est
mais,
juste ça,
mais encore une fois, il y a même un hadith qui est lui aussi authentique, qui dit que quand quelqu'un ça lui arrive d'avoir un paix, parce que c'est naturel. Non,
hein, mais ça, c'est en tant qu'humain. Bon.
Le paix est quelque chose de naturel. Le prophète dit il ne faut pas rire. Il a interdit le fait de rire et de se moquer.
Oui.
De se moquer la personne.
Pourtant, parfois, c'est drôle.
Ouais. Bah, c'est drôle, mais ça peut arriver.
Ça monte la classe. On rigole pas de
C'est vrai que chez nous, en tout cas, surtout en Maghreb, alors je connais pas trop les cultures, mais ça diffère d'une culture à une autre. Vous avez à avoir le ro, qui, un ro, c'est le fait
alors
de roter.
Tout le monde, c'est la fête.
Eh bien, non, ça passe normal. Ouais. Il n'y a aucun problème chez nous au Maghreb, alors que chez les Français, c'est vraiment... voilà. Alors que le paix,
c'est la chouma.
Mais
normalement, c'est partout.
Mais ça peut arriver. Mais si ça arrive, on ne doit pas rire, on ne doit pas se moquer.
Il y a Philippe qui dit non, c'est pas partout. Bon.
Non.
En tout cas, chez nous, il est impoli de le faire volontairement. C'est-à-dire, on doit se retenir jusqu'à aller aux toilettes. Voilà, chez nous, on ne doit pas faire ça volontairement.
Maître Serran prend des notes.
On va avoir une belle chronique.
Allez, il est temps d'accueillir Sarah sans transition aucune. Sarah, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
J'aurais deux questions,
salam alaikum.
Alors on va faire une question et après on verra pour la deuxième.
D'accord.
Okay. Allez, on y va.
Voilà. Moi je suis mariée très jeune, à 20 ans. J'en ai 51. Sauf que je n'ai pas fait le mariage religieux, j'ai fait civilement.
D'accord. Est-ce que vous l'avez fait avec le consentement de votre père?
Oui, évidemment.
Et
oui.
Il était présent au mariage civil?
Il était présent.
Eh ben c'est bon, votre mariage est valable.
Enfin, mon père était à l'hôpital, il était d'accord, c'est mon nom qui l'a représenté à la mairie.
Parfait, très bien, votre mariage est tout à fait valable. Il ne faut pas oublier, ma sœur, que le mariage est d'abord un acte civil, ce n'est pas un acte d'abord religieux. D'accord. C'est d'abord la reconnaissance de la société, de l'union d'un homme et d'une femme, de manière à s'assurer de la filiation des enfants. Pour dire que les enfants, ils sont halal parce qu'ils ont été conçus par un homme marié avec une femme. Et le mariage civil garantit cette reconnaissance civile et sociale. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème aussi qu'il n'y a pas de mariage religieux derrière. Il y en a qui veulent imposer le mariage religieux. Ce sont simplement des tabrikat, c'est-à-dire des bénédictions qui consistent à bénir le couple et à faire des prières pour que le couple vive heureux dans la prospérité, d'accord, la postérité, etc.
Voilà.
Mais vous n'avez pas besoin d'en faire plus. C'est bien. Vous êtes bien.
Faire le mariage.
Non, Inch'Allah, qu'Allah vous bénisse et vous comble de bonheur.
Et donc, ma deuxième question, pour le mois de novembre, décembre, quand c'est en hiver, mes prières, je ne peux pas les faire au travail. J'ai pas le droit. Du coup, je les rattrape en rentrant, mais Marlène a sonné. Je les fais quand même.
Elle est où votre question, alors, si vous n'avez pas le choix?
C'était juste pour savoir.
Est-ce que vous avez le choix? Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, c'est d'essayer d'évoluer dans votre travail pour essayer de faire vos prières à l'heure. C'est-à-dire, le souci que vous devez avoir, c'est pas de gagner plus d'argent, mais d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, mais en même temps, que votre travail ne vous empêche pas de prier à l'heure. Au moins, Dhuhr el Asr, avant le coucher du soleil, et le Maghrib l'Isha, vous le faites le soir après en rentrant, il n'y a pas de problème. Mais votre évolution de carrière doit aller dans ce sens-là. Ok, essayez, je dis bien tenter. Oui. Il s'agit de faire l'effort. Voilà.
De Marlène Dusson, les prières de Doré Rassan, elles ne vont pas.
Non, vous devez les faire, vous devez les rattraper. Mais normalement, vous devez les faire avant le coucher du soleil. Donc, essayez de faire en sorte que votre travail évolue, hein, pour avoir la souplesse et la capacité de faire votre prière. Ok ?
Voilà, Sarah.
Selon la mesure du possible.
01 53 48 3000. Allô, l'imam, c'est sur Beurre FM, hein, vous posez vos questions. À l'imam Abdelali Mamoun.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ousmane Timera, 01 53 48 3000. Allô, l'imam. Alors, c'est Ralia qui est avec nous. Ralia, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Bonsoir,
salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Un petit souhait par rapport, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent sur la salat le waqt dialha. Anna, bon, je travaille comme tout le monde, j'ai pas l'occasion malheureusement de faire les prières à l'heure. Donc j'essaye là, surtout en cette période de Ramadan, de les faire dans la voiture. Bien sûr, j'ai l'eau d'eau qui chatte d'eau d'eau, c'est pas un problème. Et je le fais dans la voiture.
Alors ma sœur, moi je suis pas de ceux qui autorisent la prière dans la voiture si on n'est pas handicapé. La prière, normalement, le Coran nous dit « wa aqimus salat ». Il y a des arcanes. Les arcanes salat, c'est d'être debout, d'être incliné, d'être prosterné. Voilà, assis, je vois pas comment dans une voiture vous pouvez vous être debout, vous incliner, vous prosterner. Ce n'est pas une prière. Sauf si vous êtes handicapé. Là, à ce moment-là, la dérogation, elle est claire. Le Coran nous le dit. Laysa 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj. Il n'y a pas de contrainte imposée aux boiteux et aux malades. Mais là, vous n'êtes ni dans le premier ni en deuxième cas. Donc cette prière dans la voiture, je ne vois pas l'intérêt. Les piliers de la prière ne sont pas remplis, ne sont pas appliqués. C'est vrai que faire la prière à l'heure est une condition de validité de la prière. On ne peut pas faire la prière avant l'heure, mais en tout cas, on peut la faire après. Certes, c'est pas l'idéal, mais on peut la faire après. Par contre, pour la faire à l'heure au détriment des piliers, moi, je ne suis pas de l'avis de ceux qui autorisent ce genre de choses. Donc, mon avis, en tout cas, c'est que vous ne pouvez pas faire cette prière dans la voiture. Si vous n'avez pas un endroit où vous ne pouvez pas vous prosterner, vous incliner, vous attendez jusqu'au moment où vous pouvez le faire. D'accord. Je respecte l'avis des autres qui disent que vous pouvez la faire. Mais moi, je dis que seulement si vous êtes handicapé ou que vous vous trouvez dans un endroit où vous avez l'incapacité totale de prier debout. Comme dans un avion, dans un train, dans un véhicule qui ne va pas s'arrêter. Un bus, par exemple, qui est en mouvement entre intervilles, par exemple, entre les villes, etc. C'est bus de grande longue distance où vous pouvez pas dire au chauffeur arrêtez-vous, je dois faire la prière, ou au chauffeur de train ou à l'avion d'atterrir pour pouvoir faire la prière. Donc là, vous priez assis. Effectivement. D'accord. Mais là, vous êtes dehors. Vous pouvez prier avec un tapis ou bien même sans tapis, un carton, ou bien même par terre, même le sol. Alors, vous pouvez prier à même le sol.
J'étais avec mon collègue parce que je suis commerciale, donc je suis tout le temps sur la route. Mon collègue, qui lui est un homme, lui, par contre, il sort, il a son tapis de prière, il a sa bouteille, il fait sa prière en position debout.
Eh bien, vous la faites derrière lui. Vous la faites à côté de lui, à droite, derrière lui.
Moi, je ne suis pas avec lui.
vous me dites... Attendez, je n'ai pas compris. Vous êtes avec votre collègue ou pas?
Non.
Ah, lui, il a fait tout seul avec sa voiture et vous la... D'accord. Eh bien, si vous êtes avec lui, vous la faites derrière lui. Si vous êtes tout seul, vous faites comme votre collègue. Et vous cherchez un endroit tranquille où ça ne dérange personne. Aujourd'hui, en France, il n'est pas interdit de prier dans un espace public à partir du moment où on ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Je parle de la loi. La loi et même de la Convention européenne des droits de l'homme,
ouais,
et
c'est
la
chaud.
Déclaration. Non. Bah, bien sûr, mais moi j'ai prié plein de fois dehors.
Moi aussi, mais aujourd'hui, c'est le genre de choses qu'il faut éviter aujourd'hui. Aujourd'hui,
non.
Vous priez dehors, vous avez des flics qui viennent.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout. Non. Si t'es dans un endroit bien. Si c'est le trottoir ou le passage de tous les gens, effectivement. Ou bien dans une bande d'arrêt d'urgence, c'est complètement aberrant de faire ça. Une bande d'arrêt d'urgence, c'est complètement stupide.
Non.
Et femme ou homme, c'est pareil, la règle elle est la même. Qui a dit que les femmes ne pouvaient pas prier dehors?
Non, mais moi si je me prosterne et que les hommes passent derrière moi, c'est pas.
Non. Ah bon, et à Médine, à la Mecque, les femmes sont devant nous, c'est halal à Mecca et à Médine et haram en France, à Paris.
Ouais, mais il faudrait que madame, puisque vous êtes commerciale, dans votre cas particulier,
oui,
donc vous êtes sur les routes. On peut trouver un coin quelque part quand on est, parce que là c'est pas, vous êtes dans un bureau, vous pouvez pas sortir. Vous pouvez trouver un coin quelque part isolé, vous pouvez prier tranquillement, vous prenez votre tapis puis vous priez. Là c'est possible, en effet. Mais dans un coin isolé. Par contre, d'accord, effectivement, prier. Enfin, moi je suis de ceux, moi aussi, surtout quand j'étais un peu plus jeune, où je n'hésitais pas à prier, même en plein milieu d'un jardin, si c'était là, je le faisais, c'est tout. Parce que j'estimais que c'était pas.
Sachant que vous avez.
Mais aujourd'hui,
oui.
Aujourd'hui, à notre. En ce moment, avec la situation dans laquelle on se trouve, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne conseille pas de faire. C'est compliqué, on est dans un pays de moins en moins tolérant. En plus, si on est une femme, on peut même se faire malheureusement agresser. Et je ne dis pas dans l'absolu. Dans l'absolu, on a le droit de prier, on fait ce qu'on veut. Mais on est dans un pays où l'islamophobie est galopante. Et pour un rien, on peut être soupçonné d'extrémisme ou d'intégrisme ou de je sais pas quoi. Donc, surtout aux jeunes qui sont un peu fougueux, la prière, c'est obligatoire. Faites-le discrètement quand vous êtes dehors
mais
ailleurs.
Attends, la rue, l'espace public ne pilule pas,
de raciste
et de gens islamophobes qui vont agresser.
Il y a une grande ambiance aujourd'hui. Le simple fait de prier, d'avoir une barre, vous êtes déjà un intégriste.
Non, mais ils vont pas t'agresser, ils ont pas le droit. Si quelqu'un t'agresse parce que tu pries, c'est celui qui t'a agressé qui va être mis en garde à vue et qui va aller en prison.
Oui, mais moi je parle de pourquoi se mettre dans ces difficultés.
Non, mais il y a pas. Moi,
une forme de gêne dans laquelle.
Il s'agit pas de le faire dans un lieu où on circule. C'est vrai que si vous le faites dans un lieu où les gens circulent, il y a trouble à l'ordre public, vous gênez le passage.
Non, il y a pas trouble.
Ah non, sur le trottoir où les gens passent. Mais si vous êtes isolé dans un jardin public ou dans un parc public, ou mettez dans un coin où il n'y a personne qui va, par exemple, sous un arbre ou un truc comme ça, il est où le problème ? Il est où le problème ?
Moi, je prends des considérations plus socioculturelles. Aujourd'hui, comme j'ai dit, moi, il y a 10 ans, j'aurais jamais osé dire un truc pareil. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se font agresser. Aujourd'hui, le simple fait de montrer qu'on est un peu musulman, c'est chaud dans le pays. Le pays a changé, hein. C'est pas au niveau de la loi, mais au niveau de ce qui est diffusé dans la population, c'est compliqué. Mais madame est commerciale. Elle peut se trouver un petit coin tranquille, essayer de prier dans la mesure du possible. Et si elle peut pas, quand elle rentre,
il y a une chose. Elle a sur Internet une application qui permet de trouver la mosquée la plus proche.
C'est vrai aussi. Il y a des outils.
Puisque vous êtes libre, vous pouvez aller à la mosquée et vous priez tout simplement. Il est où le problème ?
C'est vrai aussi.
Il y a des mosquées partout maintenant. On a 2600 mosquées en France. En Île-de-France, il y en a plus de 350. Allahumma barak.
Merci Ralia. Alors, nous avons Kalissa qui est avec nous. Bienvenue Kalissa et bon Ramadan.
Salam alaikum.
Ouais, alaikum salam.
J'ai deux questions à vous poser.
Normalement, on y va. Bismillah l'oula.
C'est pourquoi nous devons tourner le doigt lors du tachaoud.
Alors on tourne pas le doigt, mais on bouge le doigt. On n'est pas obligé de le tourner, mais on peut le bouger. Effectivement, c'est ce que le prophète il a fait. On suit la sunna et le prophète a dit, selon un hadith rapporté par Ahmed, il dit que ce mouvement là du doigt est plus douloureux pour le shaitan que de lui donner des coups de barre de fer. Il n'a ashaddu ala shaitan min al hadid. Hadith rapporté par Ahmed. Et qui a été authentifié par Nasreddin Albani. Donc, ce hadith-là montre bien que ce mouvement-là, déplaît au shaitan parce que il permet aux croyants de rester concentrés dans sa prière. Est-ce que j'ai répondu à ta première question ?
Et puis, aussi sur cette affaire-là, il y a aussi l'idée.
Et pour la deuxième, c'est après avoir vu une conversion à la mosquée, j'ai eu une question qui m'est venue. Comment font les gens qui veulent se convertir alors que leurs parents ne sont pas d'accord ?
Ils gardent pour eux leur conversion entre eux et leurs copains, c'est-à-dire que ils ont des copains musulmans, donc ils disent voilà, moi je suis musulman et c'est bon, il y a pas besoin de faire 1000 cérémonies pour être musulman, on n'a pas besoin de faire des
il y a pas besoin de l'accord des parents.
Non, on n'a pas besoin de l'accord. L'enfant, il a le droit d'être croyant, il croit en ce qu'il veut. D'accord ? Mais tant qu'il est mineur, il est sous l'autorité de ses parents. Et donc l'imam ne peut pas faire organiser quoi que ce soit à la mosquée, etc. Et d'abord, on n'a pas besoin de le faire. En islam, il n'y a pas besoin d'une cérémonie. Allah prononce la shahada devant tout le monde, etc. Et il prononce la shahada devant ses copains et il attend d'être majeur à 18 ans. Là, à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Là, il pourra aller annoncer à tout le monde et faire carrément une annonce au public, à la mosquée, etc. Mais en attendant, il fait ça entre lui et ses copains. Et Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il a dans le cœur. Et s'il devait, la qadar Allah, et on ne lui souhaite pas, s'il devait mourir avant ce moment-là, eh bien, Inch'Allah, il ira au paradis, grâce à sa conversion.
Et pour revenir au doigt qui bouge quand on fait la tashahhud, il y a un certain nombre de savants qui disent que c'est pour signifier qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Oui, parce qu'on bouge un doigt, l'index.
Le doigt, c'est ça.
C'est pour montrer qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est l'unicité ça. D'Allah.
Donc, ouais. Il y en a qui le tiennent juste.
Qui le maintiennent.
Il y en a qui font le geste, voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Il n'y a qu'un seul Dieu.
Pour
insister sur cette unicité.
L'unicité de Dieu.
Oui. Ça va? On a bien répondu à tes questions?
Oui.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Merci Kalissa pour tes questions.
C'est joli Kalissa comme prénom. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je vais chercher.
Ça ressemble à la... Bon, Khalissa, ça veut dire Khalissa, celle qui...
Ah, Khalissa, ouais. Ah, d'accord, c'est avec un Kha.
Et ça ressemble aussi à Khaleesi dans Game of Thrones.
Mais bon. Alors, Khalissa, ça veut dire celle qui est sincère.
Ouais.
Fait preuve de sincérité.
On a des références. Hein.
Mashallah. On y va.
On est entre goths et...
Je trouve que c'est joli, Khalissa. Franchement, je trouve que c'est très joli, Khalissa. En français, ouais. ça a une belle connotation, Khalissa. Et en arabe aussi, c'est très joli, Khalissa.
Ah, c'est très joli.
Ouais, c'est Mashallah.
Tu connais pas Khaleesi, toi?
Non, c'est qui? Vas-y, non. Raconte-moi.
Tu connais pas Game of Thrones?
Ah non, mais truc de jeu vidéo, là?
Oui, non, non. T'as raté Game of Thrones.
Ah, je connais pas, moi, tout ça. Alhamdulillah, alladhi afani mimma btala bihi kathira mimman khalaq wa faddalani tafdila wa faddalani an aqra kitab Allah wa aqra al-kutub al-islamiyya.
Ça a inspiré des dirigeants politiques, ça.
C'est très bien, tant mieux pour vous. Mais moi, non, je vais pas perdre mon temps avec tout ça. Bismillah, on en prend un autre, Philippe.
Il est sur Beurre FM.
Ah oui, là, je suis sérieux, là.
Il est sur Beurre FM et puis il est sur BFM Business, l'imam. Tu sais, il regarde pas Game of Thrones.
Non, mais je te promets, je connais pas. Je connais même, appelle la Game of Thrones, tu me dis la Game of Thrones, j'entendais parler de ce truc, mais je sais même pas c'est quoi.
C'est pas la Game of Thrones. Non,
je connais pas, je sais pas ce que c'est.
Non, mais vous avez raison. Et on vit très bien sans ça.
Eh oui, vous vivez très bien, alhamdoulilah.
Ouais.
C'est un monde virtuel, c'est ça, un parallèle?
Non, c'est une série.
Ah non, je sais pas.
Non, mais de toute façon, Ousmane
Timira. C'est sur Netflix, c'est ça?
Ousmane Timira, il a plein de...
Ah,
il aime aussi les mangas.
Les mangas aussi.
Ouais, c'est vrai, il aime bien, il m'a dit Dragon Ball Z.
Ouais.
Bon, ça c'est le moins pire.
Ouais.
Alors, nous avons Leïla qui aime les mangas aussi, peut-être. Leïla, bonsoir, bienvenue et bon ramadan.
Bonsoir, salam alaykoum.
Bonsoir,
salam alaykoum.
Est-ce que vous aimez les mangas, Leïla?
Non.
Non.
Oh.
Et est-ce que vous connaissez Game of Thrones?
J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais regardé.
Bah voilà, ça fait deux avec l'imam alors.
Non, mais par contre, moi, les mangas comme, comment ça s'appelle, Dragon Ball Z, certains.
Vous savez.
Oui, parfois ça m'arrive de jeter un coup d'œil, de voir les petits dessins animés.
Bien. Leïla, quelle est votre question?
En fait, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre Qiyam al-Layl. J'aimerais savoir c'est quand on doit arrêter Qiyam al-Layl et mon père après il a répondu une question aussi.
Alors Qiyam al-Layl, c'est tout simplement la prière de la nuit, donc ça s'arrête quand la nuit s'arrête, tout simplement. La nuit s'arrête quand? Quand il y a l'adhan al-fajr. Quand c'est le fajr, c'est plus la nuit. Au moment de Adhan al-Fajr, même si c'est encore noir dehors, mais il y a les lueurs blanches du soleil qui commencent à apparaître dans le ciel, eh bien c'est ce qu'on appelle l'aube en arabe. En arabe, ça s'appelle al-Fajr. Eh bien c'est là où s'arrête les prières de la nuit, parce que la nuit s'arrête. La nuit c'est terminé, d'accord. Et il est préférable de terminer ses prières de la nuit par al-Witr. Shafa al-Witr ou bien al-Witr, on en dit al-Witr ou Shafa al-Witr. C'est dans l'école malikite qu'il y a le terme Shafa. Shafa qui veut dire la prière père. La prière père et al-Witr qui est la prière impère. Voilà, d'abord Qiyam al-Layl, al-Nawafil fil layl, thumma yakhtimha bi Shafa al-Witr. Hada huwa as-sunnah.
D'accord, maintenant si mon père a posé une question.
Oui, Allah, bismillah, papa. Wa alaykoum salam, marhaban, akhouya. Rabbi, kathir khairak. Islah lak dhurriya, inshallah.
هي الإنسان في الدار بون هي كي تصلي العشاء بعد تبقى لك الوقت باش تصلي تراويح وعندك الوقت باش تصلي شفع الوتر. أنا خطرت ندير شفع الوتر تخليهم كي تصلي قيام الليل تعاود دير شفع الوتر قبل ما يطلع لك النهار.
قبل ما يطلع لك الفجر.
واه الفجر.
أسمى تعاود تشفع الوتر مرتين.
لا ما تصليش على الوتر.
اي صح, هي الشافع الوتر اون في اون فوا سولمون دون لا نوي مي ا لا فان
سنو حتى
على لا فان دو قيام على فان دو قيام الليل. قيام الليل منها التراويح. التراويح نوع من انواع قيام الليل سامبلومون. علاش نسموها التراويح؟ لانها في رمضان.
صح, ومن بعد رمضان
اي
ما يكونوش تراويح,
سموه قيام الليل. مي سي لا ميم شوز, سي لا ميم شوز قيام الليل. قلت لك من العشاء بعد صلاة العشاء سي الليل جوسكا الفجر. جوسكا الفجر حتى ينتهي الليل. Tu peux choisir n'importe quel moment dans la nuit pour prier. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا كما قال تعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. دائما قيام الليل صحيح أن هي ركعتين ركعتين دائما par deux ركعات toujours et tu peux les faire à voix haute. تقدر تصليها جهرا وتقدر تصليها سرا والأفضل جهرا. Le mieux c'est de la faire à voix haute. La récitation du Coran se fait à voix haute. De préférence.
Alhamdulillah ya rabbi.
Barakallahu. Rabbi qabil inshallah ja'ala fi mizan hasanat inshallah. Hafidhakallah. Yatik sahha khouya.
Merci.
Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
On accueille Marwan qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan Marwan.
Oui,
allô, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah.
Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est bien.
Oui, c'est la nouvelle génération.
J'aimerais bien vous poser des questions.
Allez, on y va, vite, vite, vite. Bismillah.
Par rapport au maillot de foot.
Oui.
On porte un maillot avec une croix de Jésus ou un autre écusant avec une autre religion.
Oui, mais l'écusson, il est tout petit. Il fait pas, il est pas, il couvre pas tout le corps. C'est juste dans les cuissons qui se trouvent sur le côté ou bien sur l'épaule ou bien sur... sur le côté coin, dans un coin, c'est ça?
Oui, par exemple, le maillot du Real Madrid, il y a une petite croix.
Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave.
C'est pas grave.
Ma fille, salli biha, il n'y a pas de problème. Parce que toi, tu crois pas à la croix, tu crois. Ça, c'est simplement un maillot qui est lié à une équipe de foot, pas à Jésus-Christ. On est bien d'accord? Faut pas en faire trop dans la religion. Faut pas en faire de trop. Ça, c'est la religion, c'est une religion souple et c'est l'important, c'est la visée, la finalité. Est-ce que toi tu le portes pour croire en Jésus ou parce que tu es un fan du Real?
Parce que
t'es fan du Real. Voilà, t'es un fan du Real.
Oui.
T'aimes bien le Real de Madrid. Ah bah, ma fille Abbas.
Moi aussi j'aime bien le
Real. Moi aussi j'aime bien le Real de Madrid. Voilà. J'aime bien à l'époque quand il y avait Cristiano, tout ça. Mais ils sont tous partis.
Ouais.
Sont tous partis chez les pétrodollars. Ça, il n'y a plus rien maintenant. S'il y a des nouveaux joueurs, apparemment, ils sont pas mal.
Elle est bon, là.
D'après mon fils, parce que j'ai mon fils qui s'y connaît bien.
Ouais,
c'est lui qui me raconte tout ça. C'est lui qui me raconte tout ça. Mais bon, je retiens pas les noms, moi. Bismillah, on y va. Et ta deuxième question, vite, c'est quoi?
C'était, est-ce qu'on peut prier dans une pièce où il y a des toilettes?
Non, prie pas dans les toilettes. Toilettes, c'est pas fait pour ça. Il y a l'ihtiram, un minimum de respect de la parole de Dieu, d'adoration, du rituel en soi. Les toilettes, c'est fait pour ce que ça a été fait en place. Ça a été mis en place pour faire ses besoins. On ne va pas mélanger faire ses besoins et la prière à côté. Non, non. Oui. D'accord? Non. Donc on ne prie pas dans les toilettes. Même en cas de nécessité.
Merci Marwan pour ta question. Allez, dans un instant, on rêve tous de changer le monde avec Ousmane Timera. Je vous rappelle que l'ADN est en direct, comme tous les soirs, sur Beurre FM, à 19h15.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et à 18h23, on rêve tous de changer le monde avec Ousmane Timera.
Oui, que la paix soit sur vous. On rêve effectivement tous de changer le monde. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. J'aime les femmes. J'aime les femmes depuis que je vois ma mère me donner des conseils et tenir comme une femme responsable la famille et son entreprise. J'aime les femmes depuis que je vois mes tantes se battre pour aider leurs parents en Afrique. J'aime les femmes parce que elles sont joyaux de l'humanité. C'est ce que je me disais quand j'étais tout petit et je continue de le penser. Est-ce que vous vous souvenez de la vision coranique que je vous avais proposée en parlant des cinq piliers de l'islam cosmique ou de la religion cosmique, la religion de l'univers? Parmi le troisième pilier, c'était le lien que le divin établissait entre mâle et femelle, et que c'était cette relation, le principe qui était généralisé dans l'ensemble de l'univers. Tout l'univers, dans son évolution, dans sa création, dans sa beauté, dans sa magnificence, eh bien, n'était que le fruit de cette interaction, de cette relation entre mâle et femelle. Et qu'il est triste, effectivement, de voir que dans certaines sociétés, l'on préfère tuer des femmes, avorter, comme auparavant, d'ailleurs, quand d'aucuns les enterraient carrément vivantes, pour ne pas avoir à la honte d'élever des femmes. Et de préférer en conséquence les garçons. Qu'il est triste de se retrouver dans des sociétés où le désir d'un homme envers une femme s'estompe, où les relations entre hommes et femmes se transforment en pugilat, en guerre, en méfiance. Qu'il est triste de voir de part et d'autre des civilisations où l'un veut dominer l'autre et par réaction, l'autre refuse la relation et le lien. C'est là le signe d'une civilisation de société acosmique, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de ce sur quoi le cosmos est fondé et ce sur quoi les sociétés humaines, dans leur évolution, dans leur créativité, dans leur continuité, sont posées. Comprendre que les hommes et les femmes, comme disait le prophète sur lui et la paix, sont des frères et des sœurs. Un nisa ou shaqa et qurrijal, disait-il. Les femmes sont les sœurs des hommes. Quelle pensée, quelle vision devons-nous avoir en conséquence quand nous sommes dans des sociétés majoritairement musulmanes qui ont le taux d'analphabétisme des femmes le plus important? Que devons-nous penser lorsque, dans les temps de guerre, les femmes sont celles avec les enfants qui sont les victimes de la tyrannie, les victimes de la grossièreté, les victimes de la loi du plus fort? Que faudrait-il faire dans des sociétés, les nôtres, notamment en France, où des milliers de femmes se retrouvent seules avec leurs enfants dans la rue à supporter les affres de la faim et la responsabilité de la charge familiale, car n'ayant plus le partenaire et n'ayant plus le responsable qui, en être irresponsable, l'a laissée seule avec les enfants, qui, elle, ne les quitte jamais? Que dire dans des sociétés où nous ne pensons pas la possibilité de donner aux femmes ce surplus qui leur permet de compenser ce qu'elles font d'extraordinaire, porter l'enfant, l'éduquer, être présent au premier jour de sa vie? On va me traiter de rétrograde. On va me dire, mais non, mais tu veux faire de la femme une simple pondeuse qui va rester à la maison et s'occuper des enfants. Elle a le droit de travailler, elle a le droit de voir son argent. Je ne dis rien de tout cela. Je dis juste que le monde du travail doit s'adapter à la famille, doit s'adapter aux besoins de nos enfants, de leur maman, doit s'adapter au désir de certaines femmes de vouloir éduquer leurs enfants sans sacrifier pour autant leur carrière et leur portefeuille. C'est à la société de donner la possibilité à ce que de telles vocations puissent se réaliser. Il est triste de voir des jeunes hommes, de voir des jeunes femmes qui durant un an n'éprouvent aucun désir. J'étais très étonné d'entendre et de voir ce sondage. Il est tout à fait naturel de ressentir du désir. Il est tout à fait naturel d'avoir envie et d'être attiré par l'autre sexe dès lors que cela se fait dans le respect, dans la moralité et dans l'envie de quelque chose qui va dans le sens du bien, du beau, du majestueux. Que nous arrive-t-il ? Pourquoi est-ce que nous allons dans de tels extrêmes? Entre ceux qui veulent les dominer, les prendre comme des objets, en faire ce que l'on veut à l'image d'une certaine entreprise ou d'une certaine industrie dite pornographique qui n'a aucun respect pour les femmes, et de l'autre côté, à l'extrême, plus de relations, même de la crainte, même du dégoût. Ce sont des extrémités, encore une fois, qui montrent que nos sociétés sont dans le trouble, sont déséquilibrées. Nous passons d'un extrême à l'autre. Peut-être faudrait-il penser une nouvelle philosophie des relations entre les hommes et les femmes. Peut-être devrions-nous parler de symbiosophie, de symbiosexualité, d'une philosophie de la symbiose qui dit qu'en réalité, l'humanité ne peut voler de ses deux ailes sans elles, et que nous avons besoin d'elles pour nous envoler vers notre dignité, vers ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi j'aime les femmes, parce que le prophète, sur lui la paix, le disait dans des sociétés qui voulaient les enterrer vivantes. Il disait, des trois choses qui m'a été donné d'aimer le plus dans ce monde, c'est le parfum. Il était raffiné et élégant. Ce sont les femmes. Il les aimait pour leur qualité et aimait les mettre en valeur. Non pas comme un loup avec sa brebis, mais comme un homme digne et classe envers sa partenaire. Et enfin, la prière, qui est la fraîcheur de ses yeux. Mettre les femmes entre le parfum et la prière, seul un prophète de l'humanité peut le faire. Quel parfum allons-nous donner à nos cœurs permettant d'apprécier au mieux les femmes et le rapport? J'aime les femmes parce qu'elles sont nos mères, parce qu'elles sont nos partenaires, parce que sans elles, l'humanité n'est rien, parce que nous avons besoin des deux ailes pour nous envoler. Nous avons besoin d'elles.
Ousmane Timéra, vous retrouvez la chronique d'Ousmane Timéra sur la chaîne YouTube de Beurre FM, d'ailleurs, et sur les réseaux sociaux d'Ousmane Timéra, hein, si vous voulez revoir cette chronique qui est filmée. Donc comme ça, vous pouvez un peu partager les coulisses de l'émission. Hier soir, en parlant de coulisses, on avait un invité, Imam Abdelali. C'est vrai qu'on invite les auditrices, les auditeurs à nous rejoindre, à venir partager le tour avec nous. Et Fares est venu nous voir hier, Imam Abdelali.
Oui, effectivement, il nous a ramené des chocolats, franchement délicieux. J'ai bien aimé.
Non, il nous a pas ramené avec des chocolats. Il nous a ramené des chocolats
japonais.
Voilà. Alors ça s'invente pas. Le monde a changé quand même, hein.
C'est vrai que c'est impressionnant.
Parce que les chocolats,
j'ai bien aimé. En tout cas, c'était un très bon invité. Ouais, j'étais content de l'avoir. Bonne expérience. Donc, si quelqu'un d'autre a envie de venir, j'en ai un autre là, apparemment, qui s'est manifesté, Philippe. Inch'Allah, ça sera quelqu'un comme Fares. En tout cas, très agréable.
En tout cas, c'était quelqu'un de très bien, de très poli.
Oui, j'ai bien aimé.
Très sympathique. Très sympathique. Vraiment, une belle conversation.
Donc, vous êtes en train de dire, Imam Deli, qu'il reste de la place.
Oui,
moi j'ai vu le planning de la semaine, ça va être chaud.
Rien, Inch'Allah. Il y a toujours une petite
place pour l'invité. Il faudra apporter du chocolat japonais.
Les invités de Beurre FM, Philippe, sont privilégiés, tu le sais bien.
Mais non, je suis d'accord avec vous.
Bon.
Mais bon, vous voulez manger quoi alors?
De quoi?
Qu'est-ce qu'on va... Vous voulez qu'on vous apporte quoi?
Ce soir, on va terminer les chocolats déjà de notre ami Fares.
En plus, ça se fait pas. L'imam, il lui a donné du chou hier. Il a donné du tagine au chou.
Alors, il y a du chou, entre autres.
Non, il y avait beaucoup
mais
de chou.
C'est de la viande.
Non, il y avait du chou. Hein.
Il y avait un peu de chou. Ben, un peu de chou, c'est normal. Il faut qu'il y ait du chou. C'est bien le chou. Chou blanc. Un bon chou blanc, c'est très bon.
Il faut manger des légumes au chou.
Il y a des pommes de terre, des carottes.
Vous aviez pas besoin parce qu'il insistait. Il dit alors, t'en penses quoi? Ouais, ça va, c'est bon. C'est bon. Moi, je suis pas trop chou d'habitude. Mais bon, je me suis dit, il faut que je sois chou avec lui.
C'est promis. La prochaine fois que vous viendrez, on fera pas de tagine au chou. Mais vous êtes les bienvenus.
On a un imam chou avec nous.
Bien.
Alhamdulillah.
Et qui va faire l'ADN en direct, comme tous les soirs à 19h15 sur Beurre FM.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et grâce à Maul Patron, vous gâte tous les soirs, hein, tous les soirs de ce mois de Ramadan, puisque vous savez, l'un d'entre vous est l'auditeur VIP, c'est lui qui termine la journée avec nous. Mais pour tout ça, eh bien, c'est très simple, il faudra appeler le standard de Beurre FM, le 01 53 48 3000, quand on vous le dira. Ça n'a rien d'appeler avant, puisque le standard est reseté juste avant d'appeler. Et à ce moment-là, vous avez exactement la même égalité de chance pour pouvoir être l'auditeur VIP. L'auditeur VIP qui gagne une télé connectée de 32 pouces ou un robot aspirateur qui vous est offert donc par Maul Patron. Vous savez, Imam Abdelali, Maul Patron, c'est 4 adresses en France. Hein.
Oui, Ony, à côté de Cergy, Auconville, à côté de Toulouse.
Ça, c'est bien. Maintenant, vous êtes bien sur
Auconville. Oui, on est dans l'autre sens. Auconville, ça va, c'est rentré maintenant, c'est bon. On a Bichelet à côté de Mantes-la-Jolie, donc c'est pratiquement le Val-Fouré, donc c'est juste à côté, côté du Quick, hein, pour ceux qui veulent effectivement connaître, c'est quand vous arrivez au Quick, là, c'est juste à côté à gauche.
C'est là qu'il faut tourner.
C'est là il faut aller, voilà. C'est là où j'ai acheté mon aspirateur. Moi, je l'ai acheté. Moi, je l'ai payé, moi, mon aspirateur. Ouais. J'ai pas abusé. Donc non. Là, le cadeau ce soir, c'est aspirateur gratuit. Donc et puis enfin nous avons à Oni, donc non, à côté
on a
de
Tourcoing, à côté de Tourcoing.
À Tourcoing, effectivement, à Tourcoing même.
À Tourcoing même. Ouais.
Tourcoing et Oni à côté de Cergy.
Voilà, très bien. Voilà, on l'avait déjà dit.
Et au sud, au nord et au centre.
Une application à télécharger, une application gratuite. Donc Mall Patron, donc notre partenaire pendant tout ce mois de Ramadan. Imam Abdelali, j'en appelle à vos goûts et à votre discothèque, comme on dit.
Alors là, c'est une chanson algérienne sur le Ramadan, magnifique, avec plein de chanteurs et des chanteuses aussi. Il y a des chanteurs et des chanteuses qui chantent à la gloire du Ramadan. Et au début, c'est carrément la star algérienne, Abdelkader Chaou, connue par tous les gens du bled, quoi. Tous ceux qui connaissent un petit peu la culture musicale d'Algérienne ne peuvent pas ne pas connaître Abdelkader Chaou. Et il y a même du rap en algérien, c'est une belle chanson en arabe, et en algérien, en dialecte algérien, vous allez voir, c'est magnifique, elle est super, la chanson, et des voix magnifiques en plus. On écoute.
Alors, on l'écoute, oui.
Oui.
On l'écoute, si
on
elle
attend,
passe.
Mais on attend bon. si le voilà, mais le problème technique.
Le temps qu'elle arrive d'Algérie, c'est ça, le problème, voilà, c'est qu'il y a Imam Abdelali, faut la rapatrier. Ah,
parce que peut-être qu'elle est partie en Afrique du Sud, c'est peut-être pour ça.
C'est pour ça.
Parce qu'apparemment, il y a un match amical aujourd'hui.
Algérie,
donc l'Algérie est partie en Afrique du Sud, donc vous allez la chercher, la chanson, parce qu'en Afrique du Sud.
Avec le nouvel entraîneur.
Hein?
Avec le nouvel entraîneur.
Avec le nouvel entraîneur. Toujours serbe, c'est ça, hein?
Je sais plus
comment il s'appelle, un truc qui se finit par Itch à la fin, tu sais, les fameux Itch du. Voilà. Et donc, je crois qu'on a retrouvé la chanson.
Pourquoi ils sont serbes, les entraîneurs en Algérie, vous savez?
Comment?
Pourquoi ils sont
serbes?
Apparemment,
il y a une relation particulière entre l'Algérie et la Serbie.
Non.
Ouais, c'est bizarre.
Bon. Mmh. Alors, en régie, on nous dit que votre chanson.
Ne passera pas.
Elle passe pas. Voilà, c'est ça. Donc, on se faisait une joie, vous nous l'avez bien vendue.
Eh bien, écoute,
attends, je ne sais pas ce qui se passe. On essaie de la rapatrier.
Non,
c'est pour tester nos capacités à rebondir.
Je vais laisser mon numéro de téléphone pour ceux qui ont une question à poser, etc. Le 06 29 25 35 00. Hein, parce que je pense qu'on ne pourra plus prendre quelqu'un pour les questions, c'est fini. Hein.
De toute façon, le standard, il est blindé. C'est pas qu'on peut plus.
Le standard est blindé. 06 29, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Pour vos questions et aussi pour vous inscrire pour la Omra du mois de février, du mois de, que je dis février, mois de mai, 1er mai jusqu'au 11 mai.
2025, février 2025.
Du 11, non, 24, voilà, donc c'est déjà parti. J'arrive pas, j'essaie d'enlever le son, j'y arrive pas, je vais y arriver après. 06 29 25 35 00, il me reste quelques places pour le séjour du mois d'avril, du 12 avril au 19 avril. Je fais un séjour dans un gîte privé, avec une piscine privée, avec plein d'activités privées. Ceux qui sont intéressés pendant les vacances de Pâques, là, du 12 au 19 avril, je fais ça. Il reste quelques places, mais il faut vraiment vous dépêcher. Ceux qui le veulent, envoyez-moi des messages, n'appelez pas s'il vous plaît, car je ne pourrai pas répondre alors qu'on est en direct à la radio. Voilà. Donc ceux
bon,
qui
alors je sais pas, je crois que pour la chanson ça passe, ça se présente pas terrible, hein.
Oh dommage, parce qu'elle est super belle.
Ouais.
C'est dommage.
Mais bon, de toute façon, c'est mieux, on l'écoutera demain. Je suis assez d'avis qu'on prenne que des questions d'enfants demain.
Allez, on y va.
Il y a plein de questions d'enfants. Demain, on fera que des questions d'enfants.
Et donc, puis pour la nuit du destin, on a un beau programme aussi avec pas mal d'intervenants, des enfants aussi qui vont pouvoir réciter le Coran.
Voilà, traditionnellement, vous savez.
Le vendredi 5. Vendredi 5 avril.
C'est la veille d'un week-end. Donc
ouais,
voilà.
Très bien, tranquille. Ouais.
Donc voilà. Vous pourrez réciter le Coran.
Vendredi 5 avril, ça sera le 27, la nuit du 27. Donc la nuit du 26 au 27 Ramadan, qui correspondra au 5 avril, Inch'Allah. Vendredi 5 avril, qui va correspondre, Inch'Allah, avec la nuit du 27e, qui, Inch'Allah, coïncide avec la nuit du destin, la nuit de la prédestinée, du mérite, de la quantité, de la qualité.
Moi, ce sera le mariage d'un ami.
De la valeur.
Tu as décidé de se marier, sa femme va absolument se marier la nuit du destin.
Eh ben, c'est parce que le destin est distribué. Peut-être que ce jour-là, ça sera le bonheur qui sera pour elle.
Inch'Allah,
on lui souhaite.
Ça, c'est sûr que ce sera le bonheur.
Inch'Allah, Zawaj. Moubarak, Mas'oud, Inch'Allah.
Bon, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On passe ou on passe pas?
Ça passe pas.
On passe pas.
Bon, bah écoute.
Alors, une sourate bien comprise.
Ah,
tiens.
On y va.
Ça faisait effectivement un moment.
Bah oui, c'est.
Il y a un passage qui me revient souvent en tête, le début de la sourate Taha. On dit que c'est cette sourate qui a fait convertir le célèbre Omar ibn al-Khattab, qui dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. Et je me souviens, il y avait un monsieur qui s'était converti à l'islam. Et il était avec les gens du Tablir. C'est un mouvement bien connu.
Voilà, pour tout le monde, le Tablir, c'est un...
C'est un mouvement qui dit, qui part du principe qu'il faut aller faire la da'wah, c'est-à-dire appeler à Dieu, et ils vont partout dans le monde. C'est partout.
C'est un mouvement un peu convertisseur, quand même.
Très convertisseur. Ouais. C'est les témoins de Jéhovah de l'islam. Ouais. Mais bon, je crois pas qu'ils seront d'accord avec ce genre de comparaison. Bref, et je le voyais tout jeune, les pieds tout douloureux. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Il me dit, mais parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je m'assoie comme... le prophète, alayhi salat wa salam, quand Djibril est venu, il s'est assis. J'ai dit, mais tes pieds, ils sont pas habitués. T'es en train de te blesser, là. Il me dit, non, mais il faut supporter. Et je lui dis, et je lui cite ce passage. Je lui dis, non, le Coran, il dit, nous n'avons pas fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. Il me dit, ah bon? Je lui dis, oui. Tu dois pas souffrir. Le but de l'islam, c'est pas que tu souffres. Et il y en a, ils pensent que plus tu souffres, et mieux t'iras au paradis.
Oui, mais la suite est intéressante. On dit illa tadhkiratan liman yakhsha.
Oui, ça n'est que
un rappel pour ceux qui ont la crainte.
Qui ont la crainte. Le but du Coran, c'est ça. C'est pas de te faire mal, c'est pas de te faire du mal, c'est pas pour que tu sois heureux. Et dis-toi, si tu es en train de pratiquer l'islam et que tu souffres dans ta chair et dans ton corps, c'est pas l'islam. C'est un autre truc. Tu t'es trompé. Normalement, c'est quelque chose qui va dans le sens de la facilité, de la tranquillité et de l'humanité. Donc, ce passage-là m'interpelle beaucoup. Je trouve que c'est une très belle sourate d'ailleurs, sourate Taha.
Mashallah. Petite correction concernant l'entraîneur d'Algérie, c'est pas un Serbe, c'est un Bosniaque. On me l'a corrigé. Mais bon, c'est aussi un nom qui termine par Itch. Mais merci pour celui qui m'a rappelé. Parce que comme j'y connais rien en foot, alors là, il ne faut pas me poser trop de questions.
Et visiblement, en nom.
Oh non, ouais. C'est la même région, hein, Bosnie, Serbie, Croatie, tout ça, c'est la même chose. Bon.
En tout cas, c'est une sourate que je conseille beaucoup de gens à lire. C'est une très belle sourate. C'est cette sourate dans laquelle aussi se trouve l'objectif de la prière indiqué à Moïse quand le Seigneur lui dit wa aqimis salat li dhikri, accomplis la prière pour que tu te rappelles de moi. Le but de la prière, c'est de se souvenir de Dieu. Et une prière sans souvenir, voilà, c'est comme une journée sans soleil.
Allahumma barik.
Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette sourate, Imam Abdelali?
La sourate Taha, ouais. Elle parle beaucoup en référence avec Sayyidina Moussa alayhi salam, donc le prophète Moïse, notamment des miracles que Dieu a accordé à Sayyidina Moussa alayhi salam, qui, je rappelle, a été cité 136 fois dans le Coran.
C'est le prophète le plus cité dans le Coran.
Voilà, tout à fait. C'est bien Moïse, l'un des grands prophètes qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul, hein, les doués de fermeté, puisque le Coran nous parle seulement que de 25 prophètes, 25 prophètes, dont les 5 grands prophètes doués de fermeté que sont Ibrahim, Moussa. Alors d'abord il y a Noé, excusez-moi. Dans l'ordre chronologique c'est Noé, Noé alayhi salam, ensuite Ibrahim, Moïse, Jésus-Christ, donc Sayyidina Isa, et enfin Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 5 prophètes doués de fermeté font partie des 25 qui sont cités dans le Coran, même si, bien entendu, le prophète nous apporte que Dieu a révélé une parole divine, et donc a envoyé la révélation à 120 ou 124 000 hommes qui donc deviennent des prophètes de ce fait. Mais sur ces 124 000, seuls 314, je crois à peu près, ont reçu l'ordre de transmettre le message. Donc sont à la fois des nabis, des anbiya, c'est-à-dire des prophètes, mais aussi des messagers, c'est-à-dire rusul. Voilà. Donc ça, c'est une matière qu'on appelle la prophétologie, que vous pouvez découvrir, c'est important de connaître. Le croyant ne peut pas prétendre qu'avoir la foi s'il n'a pas la connaissance des piliers de la foi, que sont la foi en Dieu, aux anges, aux livres célestes, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce sont les 6 piliers de la foi. Je parle des piliers de la foi et non pas les piliers d'islam ou les piliers de cosmique que disait tout à l'heure Ousmane.
Ouais.
Nous parler des piliers, mais qui sont effectivement très important, ouais, très pertinent.
C'est un concept que j'ai tiré du Coran.
Mais bon, en tout cas,
les grandes lignes,
elles sont référées. Étant donné qu'elles font référence à un certain nombre de règles, ou du moins de préceptes de l'islam, elles sont tout à fait recevables, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que quand Jibril, quand on revient du hadith de Jibril, quand il a interrogé le prophète, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'iman? Pas l'islam, on parle de l'iman, le deuxième degré de la foi. Eh bien, le prophète a répondu, l'iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. et de croire enfin au destin, qu'il soit bon ou mauvais, après avoir cru en Dieu, aux anges, aux prophètes, aux livres célestes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc le croyant ne peut pas se passer de ces six piliers de la foi, même s'il y a d'autres choses à croire. Hein, quand on parle des anges, on intègre toutes les créatures paranormales ou plutôt ésotériques que sont par exemple les djinns. Ils sont qui vivent dans un monde parallèle et qui, comme l'a dit Hartmann, n'ont pas l'habitude de venir nous embêter pour véritablement agir sur notre corps. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, hein, puisque même s'ils devaient nous posséder et nous faire commettre des actes malgré notre volonté, Dieu nous en tiendrait par rigueur. Il a ukriha wa qalbuhu mutma'innun ma ukriha alayhi wa mastukriha alayhi la yukallaf al-insan bidhalik, yani Dieu ne considère pas de considération de responsabilité à faire supporter quelque chose qui a été fait sous la contrainte. Donc voilà.
Et sur cette sourate, c'est une sourate qui se trouve à quelle place du Coran?
Tu parles de
la sourate Taha.
Taha,
elle est la 20e.
Ah oui, je connaissais
c'est
pas
après le numéro. Parce qu'elle n'est pas très connue en fait. Hein.
Elle est après Sourate al-Kahf, après la grotte et après Maryam.
Ouais.
Donc après la grotte, on a Maryam et ensuite on a Taha. Et je crois que c'est Sourate al-Anbiya qui vient après. Je crois.
Oui, il me semble.
Voilà, les prophètes, pluriel.
En tout cas, c'est une sourate à méditer. Elle se termine toujours avec une sorte de Ma anzalna alayka al-Qur'an al-Tashqa. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
Et surtout que là il a inversé. Alors que d'habitude on dit السماوات والأرض, mais justement pour avoir le سجع, qui est la rime, eh bien il a dit il a créé la terre
et les
sept cieux très hauts, pour avoir une rime, pour avoir le fameux
c'est une belle sourate.
Non, le Coran est d'une beauté rhétorique extraordinaire, ça c'est certain. En tout cas, lisez le Coran et méditez-le pour ne pas justement que Dieu cadenasse vos cœurs. Parce que Dieu, dans le Coran, il dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Où leur cœur serait-il cadenassé, hein, le قُفْل en arabe, قُفْل, ça veut dire le cadenas. C'est le cadenas. Donc, surtout, continuez à faire en sorte que votre cœur soit constamment ouvert et non pas fermé, cadenassé. Et c'est le Coran qui peut garantir cela. Donc, lisez-le, en particulier pendant le mois du Ramadan. Multipliez sa lecture. Alors, il n'est pas nécessaire de lire l'intégralité, mais surtout le lire et le méditer. Lire et méditer, prendre le temps.
C'est intéressant justement de découvrir des sourates qui sont peut-être un peu moins connues.
Oui, tout à fait.
Non, mais c'est...
Il y a des choses à dire.
Faire découvrir aux gens des sourates peut-être qui ont une saveur différente.
Ah, certainement. Chaque sourate, il a son charme, il a sa personnalité, elle a sa beauté, elle a son éloquence, elle a son mais aussi sa leçon. C'est leçon de moralité, c'est leçon de guidance, puisque le Coran est dans son intégralité d'abord une guidance. Un huda linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Chaque sourate a un sujet, malgré ce qu'on pense. On a l'impression qu'il saute d'un sujet à l'autre. Chaque sourate a un sujet. Et quand la profondeur de la méditation, elle se rend manifeste quand on arrive à trouver les liens entre les différents passages et deviner c'est quoi le sujet principal de la sourate qui organise le tout.
Alors, donc, c'est la sourate, c'est quoi le sujet principal?
Le sujet principal de la sourate, c'est le soutien, en fait, envers son prophète, alayhi salatu wassalam, et l'exemple de ce soutien à travers le prophète Moïse, et toutes les conséquences que cela va avoir. C'est une sourate qui parle de la compagnie de Dieu, de sa proximité.
De l'homme en général, et des prophètes en particulier. Voilà, du croyant en général, des croyants en général, et du prophète en particulier. Si tu veux, par exemple, il a raison ce qu'il dit Othman. Al-Baqara, avec son énormité, avec la quantité, on va dire, très conséquente d'histoire qu'il y a à l'intérieur, elle ne parle que d'une chose, c'est la khilafa.
C'est ça.
C'est quoi
la khilafa, c'est-à-dire le rôle que l'homme il a sur terre d'être le garant de la loi, de l'ordre établi, de faire en sorte que règne pas la loi de la jungle et que les créatures se respectent et qu'on respecte la planète sur laquelle nous sommes et toutes les créatures qu'il y a dessus.
Ça, c'est l'homme est le garant. Sourate du Coran.
C'est la sourate al-Baqara. Sourate al-Imran. Al-Imran, elle est dans la continuité de dire que ce n'est pas seulement Adam qui est concerné par cette khilafa, mais comme le dit le verset, inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Cette sourate nous dit que dans la continuité, c'est toutes les générations qui sont concernées. Et à chaque fois que une génération se trouve sur Terre, elle a ce devoir d'assurer l'ordre établi et de faire régner la paix et la justice sur Terre. Ensuite, vous avez Nissa. Alors Nissa, c'est quoi? C'est plutôt imposer l'ordre établi, mais dans la sphère privée, dans le monde notamment où les personnes sont en difficulté. Quand on lit dès le début de la sourate, il parle des orphelins, de ne pas s'en prendre aux orphelins, etc. Bon, ça c'est une longue discussion sur les finalités.
Non, mais c'est intéressant justement de pouvoir comprendre un petit peu les sujets des sourates et puis de les méditer différemment. Alors, on a retrouvé votre chanson, je crois.
Superbe, Inch'Allah. Ben, on écoute alors.
ضيفنا عزيز وغالي وغالي شهر الفضيل قدره عالي يحيا فيه الدين وحوالي يجعل صيامنا يا سيدي يجعل صيامنا في الجنة
صايمين رمضان وجا وشحال وحنا مستنيين حبان في العينين لسه كل مهنيين هذا هو شهر الرحمة أجر بركة وجو زين
دايما فرحتي ما ديما قايمة وبارك علينا بنيمة يا ربي دومها
يا ربي فرحنا بربي
دايما فرحتي ما ديما قايمة وبارك علينا بنيمة يا ربي فرحنا
اشرع على هذه الأمة في شهر الخير والرحمة رمضان رمضان
تحلى السهرة في العومة كبار وصغار ملمومة ضحكة في وجهها مرسومة في رمضان رمضان
صيام قيام بهم نجيبوا الأجر نفوتوا أحلى أيام بهم نتعلم الصبر بسحور مع الفجر حتى الفطور والسهر يا ربي توب علينا في الآخر من ألف شهر
رمضان هلالك نور شهر التوبة والغفران
رمضان هلالك نور وبان
رمضان شهر التوبة والغفران
رمضان هلالك نور وبان
رمضان شهر التوبة والغفران
دايما فرحتنا ديما
et sa traduction en français.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Rabbana إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
Seigneur, Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien.
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse.
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
Leur Seigneur les a alors exaucés, disant: En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense.
La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad.
Que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles.
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ceux qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire ses comptes.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous.
Et c'est l'heure où l'agent Fofo fait le ménage au niveau du standard. Voilà, on clean le standard. Donc ça veut dire qu'on est en train de nettoyer toutes les lignes. Et au top départ, vous pourrez appeler le 01 53 48 3000 si vous voulez être l'auditeur VIP. 01 53 48 3000. Donc là, vous pouvez y aller. Voilà, comme ça, on a toutes les lignes qui sont libérées et donc vous pouvez profiter de cette place.
Bah, à peine tu l'as dit, c'était dit. Ça me fait rire parce que le standard il se remplit à une vitesse grand V. Donc à peine, t'as même pas dit un mot, les six places sont.
Mais attends,
sont occupées.
On va pas les prendre tout de suite, on va attendre un petit peu.
Ah, donc tu vas encore refaire.
Non, là, regardez, vous voyez, les lignes se remettent à
voilà,
niveau.
C'est
voyez.
Ça. Ok, je vois ça.
Imam Abdelali.
Tout le monde veut l'aspirateur.
Ou pas. Peut-être que quelqu'un d'autre
veut
quelque chose.
La télévision.
Bon, alors, une main innocente, Imam Abdelalou. Imam Abdelali, vous qui êtes l'innocence caractérisée.
Alors, on y va. Tu veux d'un chiffre de 1 à 6,
ah ouais,
c'est ça ?
On ne peut rien vous cacher.
Alors, El-Witr, on a parlé de El-Witr. El-Witr, c'est 1. Ça veut dire 1 qui est Allah wahidun la sharika lahu. 1 est indivisible.
Alors, c'est l'auditeur.
C'est le chiffre numéro 1.
Qui se trouve sur la ligne numéro 1, qui est l'auditeur VIP. Bonsoir, bienvenue. On va faire connaissance.
Oui.
Wa alaykoum salam.
Ça va, vous allez bien?
Alhamdulillah.
Ça va et vous, est-ce que ça va?
Ça fait depuis le Ramadan, ma femme, elle veut de vous appeler pour faire un dédicace pour sa terre et tout.
Ah, mashallah.
Halam Barka. Et moi, je veux faire un dédicace pour mes petites terres. C'est Noha et Najwa.
Noha et Najwa, machin.
Alors, quel est votre prénom d'abord?
D'abord ton prénom à toi avant de lui céder des autres.
Mon prénom c'est Belkacem.
Belkacem, Micharfina Khoya.
Belkacem, vous nous appelez d'où?
J'appelle de Paris, à Saint-Denis.
D'accord,
Micharfina
Khoya. Et votre femme, elle se prénomme comment?
Sa femme, elle s'appelle Imen.
Non, ta femme à toi.
La vôtre. Sa femme, oui, mais la vôtre.
Oui, elle s'appelle Imen.
Ah, elle s'appelle Imen, d'accord, c'est votre femme qui s'appelle Imen.
Ouais, c'est ça. En plus de ça, elle est là, elle vient de rentrer de.
Ouais, on l'a entendu.
Ouais. C'est ça.
On l'a entendu. Allahumma barik. Rabbi khaliha lak wa ijma' bainakum ala khair wa yarzuqkum sa'ada wa dhurriya saliha ya rab al'alam. Akh min wain fi al-blad?
Ana voilà, je viens de Khanchla, je suis un bleda, je suis un
Khanchla, mashallah, Allahumma barik. C'est un chaoui. Connais chaoui? Les
alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, est-ce que c'est un aspirateur ou une télévision?
Un aspirateur.
Voilà. Ah, on allait vous le dire. C'est
sans fil en plus, machin.
Bah ouais, l'aspirateur robot.
Super.
Qu'est-ce que vous avez préparé à manger ce soir?
Ben, on a préparé la shorba et le bourek, la soupe et shlata, voilà, shlata et tout, voilà.
Au travail,
en plus de ça, elle était au travail. C'est pour ça qu'elle
n'a pas préparé. Double journée. En tout cas, ça fait plaisir de vous faire plaisir et de terminer cette belle journée de Ramadan.
Avec ce beau cadeau.
Couscous Dari vous souhaite un bon Ramadan. Skso Dari, Meirta Dari. Vivez un Ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله
الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا بمزيد من الأجر والثواب آمين آمين والحمد لله رب العالمين
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة سكسو داري ما يختى داري Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.